que Dieu nous aide par son Saint-Esprit. Nous allons ensemble lire un passage dans l'Épître aux Éphésiens. Nous avons introduit dimanche dernier par un passage dans la même Épître. Vous vous rappelez certainement, pour ceux qui étaient là, au chapitre 2. Cette fois-ci, on va lire au chapitre 3, un passage que nous avions lu aussi au début de l'été. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Cette épître aux Éphésiens est extraordinaire. C'est une véritable mine d'or spirituelle dans laquelle nous y puisons des pépites pour notre foi qui fortifient notre âme et qui nous donnent d'avancer jour après jour. Que Dieu soit béni. Dimanche dernier, nous avions vu dans la même épître, mais au chapitre 2, que l'apôtre Paul avait écrit que nous sommes assis dans les lieux célestes, tous ensemble assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous nous sommes arrêtés dimanche dernier sur cette réalité spirituelle qui nous concerne, nous qui avons mis notre foi en Jésus, sur le fait que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Vous vous rappelez probablement, du moins pour ceux qui étaient là. Notre position, elle est dans les lieux célestes, assis en Christ. Et puisque nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, notre vie sur terre a un impact au-delà de ce que nous pouvons même nous imaginer. Ce matin, après avoir vu que nous sommes assis, j'aimerais voir avec vous un autre point qui nous concerne, un point qui concerne notre piété, notre consécration, notre position devant Dieu, que l'apôtre Paul exprime au verset 14 lorsqu'il dit « Je fléchis les genoux devant le Père ». À cause de cela. Alors, il faudrait bien relire tout ce qu'il écrit au chapitre 2 et au début du chapitre 3, lorsqu'il dit « à cause de cela », à cause de la grâce immense et imméritée que Dieu nous accorde les uns aux autres, à cause de cette position que nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble. Le même qui a pu écrire que nous sommes assis dans les lieux célestes, ne perdez pas de vue qu'il y avait un combat spirituel à mener sur cette terre et qu'à cause de cela, il fléchissait les genoux devant le Père. Fléchir les genoux devant le Père. L'apôtre Paul écrit cette épître aux Éphésiens et, comme toutes ces épîtres qu'il écrit, elles sont inspirées du Saint-Esprit, nous le savons. Et l'apôtre Paul est conscient aussi que, au-delà des paroles qu'il peut écrire, qu'il y a une vie intérieure qui doit se développer, qui ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit. Aussi, il fléchit le genou devant le Père pour ces chrétiens d'Éphèse, afin qu'ils puissent réaliser toute la splendeur de Christ dans leur cœur, toutes les dimensions et les implications de son amour lorsqu'il nous parle de cette profondeur, de cette largeur, de cette longueur et de cette hauteur, afin que nous puissions les uns et les autres être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel programme extraordinaire. Alléluia. Et nous avons bien compris, nous aussi, tout comme l'apôtre Paul, que de nous-mêmes, cela n'est pas faisable. Aussi, nous avons besoin, tout comme l'apôtre Paul, de fléchir les genoux devant notre Père Céleste. Amen. Mais avant de parler de nous, parlons de Jésus, celui qui est vraiment le centre de notre foi, celui qui est le fondement de notre foi, celui qui est le roc, le rocher des siècles, le grand sauveur et le grand Seigneur. Jésus qui a refusé de plier les genoux devant Satan. Jésus qui a refusé de se prosterner devant le diable, qui lui proposait tous les royaumes de cette terre, si tu m'adores et si tu te prosternes devant moi, mais Jésus lui répondra, tu n'adoreras seul Dieu. Que Dieu doit être digne d'être adoré. Il a donc refusé de plier les genoux devant le diable, mais il a plié les genoux devant son Père. Dans Luc chapitre 22, nous connaissons ce passage, mais nous allons le relire. Luc chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme une des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. » L'heure est importante, l'heure est solennelle, elle est cruciale. Jésus est sur le point d'être trahi par Judas, livré aux forces romaines et aux forces religieuses aussi du peuple juif. Il va dans quelques heures être crucifié, il le sait. Et Jésus va aller à cette montagne des Oliviers où il s'y rendra bien souvent. Jésus, avec ses disciples, ont chanté les cantiques, on pourrait lire dans d'autres versets. Et Jésus a chanté les cantiques, mais il s'est mis à genoux pour prier. Dans ce moment où Jésus combattait Comme nous l'a dit notre bien-aimé frère, pour nous, il est monté pour nous sur la croix, il a combattu pour nous. Jésus s'est mis à genoux devant son Père. Il sait très bien ce qui va se passer, tout l'acharnement des ténèbres, toutes les puissances de l'ennemi qui vont se déchaîner sur lui, la puissance de la mort, du péché et de Satan. Et il se met à genoux devant son Père. Lui, le Fils de Dieu, est conscient de l'enjeu spirituel dans lequel il se trouve, dans lequel il se trouve pour chacun d'entre nous. Jésus s'est rendu pleinement dépendant de son Père. Et là, il a prié instamment. Il ne s'est levé que lorsqu'il a eu fini de prier. Il a invité ses disciples à se lever parce qu'ils étaient endormis. C'est l'heure maintenant, eh bien, de se lever pour prier, comme nous l'avons chanté, « Lève-toi ». Et nous voulons, nous aussi, eh bien, considérer en quel temps nous sommes. Je me dis, mais si Jésus a eu une telle relation, si le Fils de Dieu a eu une telle position, une telle relation, lui qui est assis, souverainement assis dans les lieux célestes et qui n'a pas hésité à se mettre à genoux devant son Père, à bien plus forte raison, nous aussi, nous devons plier les genoux devant notre Père céleste. Et après s'être humilié, Jésus a été souverainement élevé. J'aimerais avec vous lire un passage magnifique qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5, un passage extraordinaire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même, au verset 8. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Ce passage extraordinaire, il nous parle de l'humilité de notre Seigneur, lui le Fils de Dieu, mais il a été aussi souverainement élevé. Et nous voyons maintenant, au verset 10, qu'au nom de Jésus, tout genou va fléchir dans les cieux. Amen. Jésus a refusé de fléchir le genou devant Satan, mais Satan fléchit les genoux devant le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre. Aucun homme, aucune femme sur cette terre n'y échappera. Quel que soit l'homme, la femme en question, tout genou sur terre va fléchir devant lui, de gré ou de force. De gré ou de force. Même les rois de ce monde, même les puissants de ce monde, qui veulent rien entendre, qui se pensent être les maîtres du monde, vont un jour fléchir les genoux devant lui. Même ces despotes dans ce monde qui sont athées, qui n'ont aucune crainte de Dieu, vont un jour fléchir les genoux devant le Fils de Dieu. Alléluia. C'est pour nous aussi, quelque part, plein d'espérance. Je me rappelle le témoignage de ce légionnaire qui est maintenant décédé depuis quelques années, que nous avons connu parce que nous avons été pasteurs dans cette église. Et cet homme, dans ce témoignage, raconte comment il était avant sa conversion. C'était un légionnaire, un homme dur, sans aucune pitié. Il avait appris à étouffer ce sentiment. Et il est parti sur des terrains de combat, de guerre. Cet homme dur disait, il fallait pas marcher sur les pieds. Je lui aurais pas marché sur les pieds. C'était un homme dur, un gaillard, une armoire à glace, comme on dit. Mais il dira, jusqu'au jour où c'est Dieu qui m'a marché sur les pieds. Et là, cet homme, que rien ne lui faisait peur, s'est mis à genoux devant le Père. Il a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, Jésus qui était monté sur la croix pour lui aussi. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre aussi, tout ce qui est mort va fléchir les genoux devant notre Seigneur, que son nom soit glorifié. Après avoir parlé de Jésus, le Fils de Dieu, parlons de nous. L'apôtre Paul dira, je fléchis les genoux devant le Père. Lui aussi, l'apôtre Paul, c'était un homme dur, un homme violent, qui respirait la menace. Il voulait en découdre avec l'Église de Jésus-Christ. Il voulait exterminer les chrétiens. Mais un jour, lui aussi, le Seigneur l'a mis à genoux. Le Seigneur l'a mis à genoux. Et lorsqu'il écrit aux Éphésiens, c'est volontairement, de plein gré, avec cœur, que l'apôtre Paul fléchit les genoux devant le Père. Se mettre à genoux devant Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté et son autorité. Est-ce que nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur notre vie? On va dire oui, bien sûr, mais lorsque, nous faisons des choses, parfois, peut-être que nous en faisons qu'à notre tête, écourtant, prenant des raccourcis, faisant la sourde oreille au conseil de la parole de Dieu. Mais est-ce que vraiment notre volonté s'est pliée devant le Maître? Est-ce que notre volonté se met à genoux devant Jésus, le Fils de Dieu? Se mettre à genoux, c'est reconnaître sa souveraineté et son autorité sur nos vies, sur nos projets, sur nos décisions, c'est accepter que Dieu nous dise oui, ça va encore, mais que Dieu aussi nous dise non, ça va moins bien. Mais nous savons que quand Dieu nous dit non, c'est parce qu'il a quelque chose d'autre à nous proposer. Il a quelque chose d'autre à nous proposer. Quand Dieu nous montre une direction, que notre volonté fléchisse devant lui. Lorsque nous nous mettons à genoux, le corps, parce qu'il est question du corps, c'est le corps aussi. C'est pas simplement, j'allais dire, quelque chose d'intérieur. Bien sûr, c'est intérieur. Mais ce qui est intérieur va s'extérioriser. Le corps participe ainsi pleinement à une dévotion. Le corps exprime par ce geste-là sa pleine dépendance de Dieu. Nous sommes appelés à nous lever, nous sommes appelés à chanter, et quand nous chantons, c'est avec notre langue, elle fait partie du corps, la langue. Elle fait partie du corps. Le corps s'exprime, qu'on le veuille ou non. Le corps s'exprime. Et par ce geste-là, il est vrai que le corps va exprimer une réalité intérieure, elle va l'exprimer d'une manière extérieure. Par moments, j'allais dire, c'est tellement fort que le corps même ne peut résister de se mettre à genoux. Peut-être que nous ne le faisons pas assez. Peut-être que plus souvent que cela, nous devrions nous mettre, même corporellement je parle, à genoux devant celui qui est notre maître. Le corps exprime ainsi quelque chose qui est à l'intérieur de notre être, exprime une humilité devant le Seigneur. Nous voulons, comme notre Seigneur, eh bien, être humbles, avoir en nous les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. L'humilité, on a fort à faire avec ça encore. L'humilité, car la chair aime bien être flattée, la chair aime bien être glorifiée, la chair aime bien se vanter. Mais je me dis, notre exemple suprême, c'est quand même le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est rendu obéissant, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même cette mort abominable de la croix. Jésus s'est humilié lui-même, lui le Fils de Dieu. S'il y en a un qui aurait pu se glorifier ou faire prévaloir certaines choses, c'est bien lui, mais Jésus s'est humilié lui-même. Un jour, il va revenir en gloire avec tous ses saints, que son nom soit béni. Alléluia. Le corps exprime donc ici sa pleine dépendance d'avec Dieu, et il va y avoir une supplication intense qui va accompagner ce geste. Jésus, dans le jardin, s'est donc mis à genoux, et il est même précisé qu'il était en agonie. Jésus, le Fils de Dieu, a été en agonie. On voit bien donc l'intensité de la supplication de notre Seigneur Jésus, qui a fait passer la volonté de son Père avant la sienne. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Ainsi, nous aussi, nous avons là un exemple à suivre d'obéissance, d'humilité et d'intensité dans notre supplication. Cette supplication, elle dépasse, j'allais dire, le simple besoin que nous pouvons avoir, nous, personnellement. Jésus est en train d'intercéder pour ce qui va se passer, et ce qui va se passer, c'est la croix, et c'est pour nous qui va intercéder. L'apôtre Paul, est-ce pour lui qu'il se met à genoux ? On voit que l'apôtre Paul a fléchi les genoux à cause de la grâce immense que Dieu nous accorde, mais il a fléchi les genoux intercédant pour les chrétiens d'Éphèse afin qu'ils puissent dans leur cœur réaliser, eh bien, toutes les dimensions de l'amour de notre Seigneur Jésus. Je vais prendre un autre exemple. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. On va même lire à partir du verset 59. Et même le verset 58. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. la scène est tout à fait exceptionnelle. Ils ont traîné Étienne hors de la ville. Ces intégristes furieux qui ne pouvaient accepter le message d'Étienne qui annonçait, qui déclarait que Jésus est le Fils de Dieu. Et ils l'ont traîné hors de la ville pour le lapider. Étienne commence à prier. Il a pleinement confiance en son Dieu. Il dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Là, il prie pour lui. Mais après avoir prié ainsi pour lui, il nous est dit au verset 60 « Puis ». Donc c'est après « Puis ». Il se met à genoux. Il est en train de recevoir des coups de pierre, car c'est comme ça qu'on lapidait les gens à l'époque. Il reçoit des pierres sur lui, et plutôt que d'essayer d'esquiver les pierres ou de se protéger, il se met simplement à genoux devant son Dieu. À genoux. Et là, pour qui il est en train de prier à ce moment-là? Il est en train de prier pour ceux qui le lapident, demandant au Seigneur de ne pas leur imputer ce péché, autrement dit, de leur pardonner. Comme Jésus sur la croix, qui réclame le pardon, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ainsi, Étienne se met à genoux, il est là dans l'intercession, non pour lui-même, alors qu'il est en train d'être lapidé, mais il s'est mis à genoux pour ceux qui le lapident, afin que le Seigneur ne leur impute point ce péché. Nous pourrions multiplier d'autres exemples, peut-être encore un autre dans le chapitre 9, des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et Tabitha est morte, on l'appelait aussi Dorcas. Alors on est venu chercher Pierre. Et ils lui ont montré tout ce qu'elle faisait. Il y avait là les pleureuses qui étaient là. Et ça faisait beaucoup de bruit tout ça. Les pleureuses faisaient beaucoup de bruit. Ceux qui viennent de certains pays savent de quoi je parle. Quand on y a des pleureuses qui sont là, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas avoir un moment de recueillement, ce n'est pas possible. Alors il a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Et là, il s'est mis à genoux, intercédant pour Dorcas. Il a prié. Probablement, il ne nous est pas dit. La teneur ne nous est pas... Le contenu de sa prière ne nous est pas écrite, rapportée. Mais on peut s'imaginer qu'il a cherché la volonté de Dieu. Et s'étant mis à genoux, il a prié, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Vous savez, je parlais dimanche dernier que nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est de l'autorité spirituelle qui va avec. On voit là un exemple de l'autorité spirituelle qui accompagnait l'apôtre Pierre parce que lui aussi était assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais néanmoins, il s'est mis à genoux. On pourrait dire, nous sommes assis dans les lieux célestes, on n'a pas besoin d'intercéder. Mais non. Jésus et les apôtres n'ont pas fait ainsi. Jésus, le Fils de Dieu, aurait pu dire, bon, il n'y a pas besoin d'intercéder, mon Père va me délivrer de la mort, je vais ressusciter, il n'y a pas besoin. Mais Jésus s'est quand même mis à genoux et il a prié instamment. Il a prié instamment. L'apôtre Pierre, qui avait été le canal de nombreux miracles, aurait pu dire facile, les morts ressuscitent. C'est une promesse de Jésus, les morts ressusciteront. Sauf qu'il s'est quand même mis à genoux. Vous savez, il y a des versets dans la parole de Dieu qui vraiment fortifient notre foi, qui sont pleins de promesses. Mais c'est pas parce que ces versets remplissent notre foi et que enrichissent nos cœurs des promesses de Dieu qu'il ne nous faut pas vraiment nous tenir dans la prière avec instance. Au contraire, nous voulons réaliser dans quel combat nous sommes et nous voulons vraiment, nous aussi, intercéder. Et s'il le faut, pourquoi pas nous mettre à genoux. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps se mettre à genoux, comprenez bien ce que je veux dire. Mais des fois le corps a lui aussi besoin de s'exprimer afin que le cœur exprime pleinement tout ce qui lui pèse au fond de lui-même. Considérons-nous les uns les autres que nous qui sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous avons besoin de nous tenir nous aussi dans la prière et nous mettre à genoux devant le Père, non seulement pour nous, mais pour les autres, intercéder pour les autres. Les genoux dans la parole de Dieu sont symboles de force. Vous pourrez lire cet intertexte. Ils sont symboles de force, mais ils sont aussi les premiers à souffrir du découragement et de la peur, tel Belshazzar, cet empereur babylonien, qui lorsqu'il a vu cette main sortir de nulle part, écrire des mots sur le mur, nous dire que ses genoux ont claqué, hein, tellement il avait peur. Hein. Il avait besoin lui aussi de fléchir le genou devant Dieu. Lui, cet homme profane, qui n'hésitait pas à utiliser les ustensiles du tabernacle pour un culte à des idoles. Il avait besoin de fléchir le genou devant Dieu. Nos genoux ont besoin d'être fortifiés. Dans Hébreux chapitre 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Symbole de force, je disais. Mais aussi, on voit que les genoux peuvent s'affaiblir. Et pour qu'il puisse à nouveau se raffermir, je ne vois que une pleine foi en Dieu qui se rend pleinement dépendant de lui. C'est ainsi que nos genoux pourront se raffermir. Nous qui avons en nous l'Esprit du Seigneur. Si pour l'homme, les genoux sont symboles de force dans la parole de Dieu pour la femme. Je parle pour la femme, son symbole de tendresse. Pour l'homme, symbole de force. Pour la femme, symbole de tendresse. Tout comme Job qui avait pu dire en son temps, « Pourquoi ai-je eu des genoux pour m'accueillir ?» Il parle de sa naissance. Ou comme cette femme encore, dont le fils va mourir, et il va mourir sur les genoux de sa mère. Nous voyons ça dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. On lui apporte son enfant, elle le met sur ses genoux, et il meurt sur ses genoux. Jusqu'au moment où elle va l'apporter au prophète Élisée, et le prophète va ressusciter cet enfant. Enfin, le Seigneur, au travers de ce prophète, va ressusciter cet enfant. C'est ainsi que pour la femme, les genoux sont symbole de tendresse. Où elle met son enfant, elle caresse son enfant. Je crois qu'il y a là quelque chose de très fort, à la fois force et tendresse. Force et tendresse. Et lorsque vraiment nous sommes à genoux devant le Père, nous sommes à ce moment-là, dans cette force que Dieu nous donne. C'est quand je suis faible que je suis fort. Nous reconnaissons notre faiblesse lorsque nous nous mettons à genoux, c'est que nous avons reconnu notre faiblesse, nos limites, et que nous ne pouvons que nous tourner vers le Seigneur, le suppliant d'intervenir. Et alors sa force à lui vient nous secourir, ou secourir ceux pour qui nous intercédons. Mais en même temps, nous ne pouvons pas intercéder pour les autres sans cette tendresse. Comment intercéder sans amour? C'est plus de l'intercession. C'est de la tradition. C'est de l'habitude. C'est de la routine. Mais l'intercession qui est faite avec tendresse, avec amour, ça c'est autre chose. Et quand nous sommes animés ainsi de cette tendresse, de cet amour, nous nous mettons à genoux pour nos bien-aimés qui sont dans la souffrance, pour nos bien-aimés qui sont malades, afin que Jésus les guérisse. Alléluia. Nous croyons à la guérison divine. Jésus est celui qui guérit nos malades. Il est celui qui vient guérir les cœurs brisés. Nous voulons nous mettre à genoux pour ceux qui souffrent, avoir un cœur pour eux. Alléluia. Que Dieu nous aide à fléchir les genoux devant le Père. Et l'apôtre Paul était animé pour les églises, pour ses frères et sœurs en la foi, de cette tendresse. Il le dira ailleurs, dans une épître, « Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ ». Alléluia. Il parle de la tendresse de Jésus-Christ. Il chérissait les chrétiens avec la tendresse de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous voulons nous chérir les uns les autres avec la tendresse de Jésus-Christ, qui, lui, n'hésite pas à nous mettre sur ses genoux. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, frères et sœurs, pour nous qui sommes assis devant les lieux célestes, n'hésitons pas à fléchir les genoux devant le Père. Et si notre corps est trop usé, parce que âgé, parce que les années ont fait son œuvre et que nous ne pouvons plus corporellement, j'allais dire, nous mettre à genoux, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, avant toute chose, bien sûr, on a compris, c'est notre cœur, que Dieu soit glorifié. Mais puissions-nous vraiment nous tenir dans la prière avec cet état d'esprit-là. À lui soit toute la gloire. Amen. On va prier ensemble, notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton exemple. Nous voulons avoir en nous les sentiments de Jésus-Christ. Et tout comme l'apôtre Paul, pouvoir dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible, que j'ai reconnu mes limites, mes faiblesses, Seigneur, c'est alors que je me tourne vers toi. Et que, Seigneur, ton esprit nous fortifie. Lorsque nous sommes pleins de nous-mêmes, Seigneur, lorsque nous sommes pleins de cette autosuffisance, que nous pensons que nous n'avons besoin de rien, Seigneur, que la vanité nous a pris, alors nous n'avons rien compris. C'est alors que nous sommes vraiment faibles. Seigneur, mais nous voulons nous agenouiller devant toi. Seigneur, être animé de cette tendresse qui est la tienne. Oh, que ton nom soit ainsi glorifié, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui es le chef suprême de l'Église. Et nous reconnaissons ta souveraineté, ton autorité. Nous sommes pleinement dépendants de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, dans la prière, nous voulons venir à toi. Que ton nom vienne, Seigneur, dans nos vies pleinement faire son œuvre. À toi soit toute la gloire, Jésus, Fils de Dieu. Tu viens secourir nos bien-aimés qui sont malades, Seigneur, qui ont des épreuves, des tracas, des oppressions, des tourmentes. Viens les secourir. Nous t'en supplions, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni.